Le but premier de ce balado est d'éduquer et de susciter des réflexions quant aux préconceptions qui peuvent influencer certaines actions, certaines décisions, certaines pratiques. Il se veut non pas accusateur, mais plutôt moteur d'un changement pour davantage de pratiques centrées sur les forces et l'affirmation. Les opinions exprimées dans ce balado sont uniquement celles des personnes concernées. Bonjour, mon nom est Marjorie Desormeaux-Moreau. Je suis née et j'ai grandi au Québec, au Canada, où je vis d'ailleurs toujours. Grande curieuse, passionnée de lecture et ergothérapeute de formation, je m'identifie comme professeure et chercheur autiste. Mon propos et mon positionnement s'enracinent donc dans un croisement de savoirs expérientiels, professionnels et scientifiques. Vous écoutez Être humain, rencontre et accompagnement, un balado qui s'attarde aux construits normatifs ainsi qu'aux biais implicites qui influencent les pratiques professionnelles. Je suis enchantée de pouvoir avoir cette discussion aujourd'hui avec Lucilla Guerrero et Isabelle Courcy. Lucilla est mentor par aidante et a détient une formation professionnelle en par aidance. Elle-même autiste, Lucilla est engagée en tant que militante depuis une dizaine d'années pour la reconnaissance positive de l'autisme et de la neurodiversité. Co-fondatrice d'Autres Créatifs et collaboratrice de recherche en autisme et en inclusion sociale, Lucilla est également présentement étudiante en sciences sociales. Son apport à ce premier épisode s'appuie sur un croisement de savoirs expérientiels et professionnels. Isabelle Courcy est sociologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Son expertise porte sur la recherche partenariale et collaborative et ses travaux s'inscrivent plus particulièrement dans le champ de l'autisme et des études féministes. Sa perspective sur le thème abordé dans cet épisode s'appuie essentiellement sur un savoir scientifique. Lucilla et Isabelle, bienvenue et merci d'avoir accepté de prendre part à ce balado.
Bonjour.
Bonjour Marjorie.
Ce premier épisode s'intitule « Être humain, moi et mes positionnements ». J'aimerais donc commencer en te demandant, Isabelle, si tu peux nous expliquer à quoi ça réfère les positionnements et que tu nous dises pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont nécessairement situés.
Oui, bien sûr. Dans mes travaux, premièrement, je travaille toujours à partir du concept d'expérience sociale qui est au cœur de la perspective féministe. Alors, il y a une expression qui est bien connue aujourd'hui qui est celle « le privé est politique » et qui fait justement référence au fait de l'importance de partir de l'expérience individuelle et collective des femmes pour rendre compte des inégalités entre les sexes. Mais travailler à partir de l'expérience, c'est aussi devoir se questionner sur des enjeux épistémologiques fondamentaux. Et qu'est-ce que c'est ça, l'épistémologie, pour le dire rapidement? Ben en fait, ça réfère à un domaine de la philosophie qui porte sur l'étude critique des sciences et de la connaissance scientifique ou encore qui peut porter sur l'étude de la connaissance en général. Donc, c'est comme un peu, le fait de se demander comment on sait ce que nous savons. Donc, les premières théoriciennes féministes à avoir travaillé l'épistémologie ont soulevé le caractère biaisé, éminemment genré, des connaissances qui sont produites par les sciences, la médecine par exemple, en les sciences de l'homme. Donc, vous voyez bien ici, même dans cette expression-là, en quelque sorte, on vient exclure les autres humains qui pourraient s'identifier comme femmes ou encore ni comme hommes ni comme femmes. Donc, pour revenir aux théoriciennes féministes du point de vue, elles ont entre autres porté à notre attention que les connaissances développées l'étaient en prenant notamment comme référent, par exemple, un corps masculin, svelte et bien souvent d'une personne à la peau blanche. Donc, un corps qui était considéré comme normal et en santé, qui rendait implicitement toutes les autres types ou les autres formes de corps suspects d'anormalité ou potentiellement porteurs de pathologies. Un exemple bien connu sont les menstruations, qui par exemple, par le passé, ont été considérées par certains experts de l'époque comme étant un état pathologique qui induisait pour la femme que l'on disait indisposée des troubles aussi bien psychologiques que physiologiques. Bref, les théoriciennes féministes ont utilisé cet exemple, mais bien d'autres aussi, hein, comme la maternité ou encore la fragilité qui était présumée des femmes pour les protéger, soi-disant, contre la virilisation induite par la pratique du sport, par exemple, ou le travail manuel. Donc, elles ont utilisé ces exemples pour montrer notamment comment le développement des connaissances est un acte social, un processus social qui est façonné par les normes sociales dominantes en vigueur dans un temps donné, à une époque donnée et dans une culture donnée. Mais plus encore, ce qu'on en retire, c'est que la façon dont on décrit un phénomène, la façon qu'on l'appréhende, qu'on le comprend, que l'on tente de l'expliquer, c'est en soi une action qui n'est pas neutre. C'est une action qui est façonnée et qui est influencée par le regard ou encore les savoirs du chercheur, de l'intervenant ou de l'intervenante. Donc, face à ces biais ici, qu'on peut dire genrés, d'autres diront par la suite sexiste, hétéronormatif, raciste, voire colonialiste, notamment quelque chose qui a été critiqué par les féministes noires ou les théoriciennes du féminisme postcolonial, ben nous gagnerions en fait à comprendre la situation d'un groupe ou d'une personne à partir de leur expérience d'une situation donnée en tenant compte de leur propre schéma d'interprétation sur cette situation plutôt que d'aller y accoler a posteriori une explication toute faite et déconnectée de la façon dont elles comprennent et vivent la dite situation. Donc, en résumé, notre position sociale, notre savoir professionnel ou nos savoirs liés à notre expérience de vie influencent, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la façon dont on réfléchit, dont on comprend, dont on interprète et évalue une situation, qu'il s'agisse de faire un choix à l'épicerie, donc un choix banal, ou encore de poser un jugement comme intervenant ou praticienne dans une situation clinique.
Tu nous parlais, Isabelle, tu nous as nommé en fait quelques types de biais. J'oserais ajouter qu'on pourrait aussi penser aux biais capacitistes, aux biais sanistes, on pourrait penser aux biais agistes, toute autre forme de biais discriminatoire aussi. Toi, Lucilla, est-ce que ces questions-là, ces enjeux-là, c'est des choses auxquelles tu as aussi réfléchi?
Oui. Par exemple, pour moi, le choix de mots est important. Et d'ailleurs pour une majorité de personnes qui préfèrent un langage centré sur l'identité. Et je l'ai dit, lorsque je demande de me nommer autiste ou d'éviter le terme TSA, et alors on peut me répondre que c'est le terme officiel et que je devrais me conformer. Et quand ça arrive, je me sens pas entendu, c'est frustrant. Et en même temps, ça brise un lien de confiance. Dans ce cas, c'est l'autre personne qui est en train d'imposer sa position et son point de vue. Aussi, au départ, mon intérêt pour l'autisme a été motivé par le fait que je voulais mieux me comprendre. Mais j'ai fini par réaliser que ce qu'on dit sur l'autisme, ça venait de l'interprétation du chercheur, qui était un observateur externe. Aussi, qu'on ne consultait pas les personnes concernées, considéré incapable ou peu fiable. Alors, j'ai compris que l'origine de la description de l'autisme se base sur le déficit sans chercher à comprendre les personnes concernées. Et ça, ça a mené à des interventions horribles. Réaliser ça, ça a été une source de malaise pour moi. Et c'est aussi le malaise d'entendre parler de soi dans des termes négatifs, dans une vision qui est uniquement basée sur le déficit. Selon cette pensée, puisque c'est une déficience, il faudrait la réparer. À l'époque, je n'avais pas de mots pour exprimer mon ressenti. Et le malaise que je ressentais face aux idées qui étaient utilisées pour parler de moi, par les professionnels, mais aussi dans les médias. Et c'est problématique et difficile, particulièrement quand c'est dans les médias, parce qu'on n'a pas la possibilité de contester ou renchérir, car on ne peut pas rien faire, sauf écrire une lettre. Mais on va faire quoi avec ma lettre? Les lettres des citoyens sont souvent ignorées.
C'est parlant ce que tu dis là, Lucilla, puis pour moi, ça évoque le concept d'injustice épistémique. C'est un concept d'ailleurs qu'on va aborder plus en profondeur dans un autre de nos épisodes de ce balado. Si je mets tout ça en perspective, Est-ce que j'aurais tort de dire, Isabelle, que le problème avec les éléments qu'a évoqué Lucilla, c'est le fait qu'ils semblent être générés par des construits normatifs préjudiciables?
Oui, ben, en fait, je pense que c'est une expression qui est vraiment très importante. Hein. Si on la prend, son construit normatif préjudiciable, c'est un peu le concept scientifique pour dire rapidement préjugé ou idée préconçue. Et quand on prend chacune de ces composantes l'une à une, bon, construit, ça réfère au fait qu'il s'agit de quelque chose qui est socialement construit, hein, comme je le disais précédemment, qui est façonné par des normes ou des représentations sociales, et que en fait, c'est quelque chose qui bouge, qui se transforme dans le temps selon les sociétés et les cultures. Donc, c'est pas une donnée de nature, c'est pas quelque chose qui est biologique, qui est appelé à rester inchangé. Le deuxième mot, normatif, hein, qui est un qualificatif, ben, réfère encore une fois à cette idée de norme, puis ce qui nous permet de départager un peu mentalement rapidement, ben, ce qui semble être normal de ce qui ne l'est pas. Donc, c'est vraiment ce qualificatif qui nous amène à faire un jugement sur la base du normal ou du anormal. Et préjudiciable, qui induit en fait l'idée d'un jugement, d'une évaluation qui est indue, infériorisante, porteuse de préjudice envers la personne. Et là, que ces préjudices-là soient matériels, hein, comme par exemple en limitant l'accès à des services, ou encore le préjudice peut être aussi symbolique, comme par exemple en renvoyant une image, une représentation qui est stigmatisante de la personne. Donc, une illustration de ça qui est forte, hein, à mes yeux, c'est si on pense notamment aux vieux préjugés qui, malheureusement, on peut encore entendre parfois, mais bon, qui est assez critiqué, qui est celui, vous l'avez peut-être déjà entendu, que les personnes, par exemple, qui sont pas capables d'arrêter de fumer, ben, sont paresseuses ou c'est parce qu'elles le veulent pas vraiment. En fait, on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'en plus de la dépendance physique et des effets de sevrage, bien, il y a aussi toute des logiques sociales qui entrent en jeu et que justement des recherches basées et intéressées à la perspective des personnes, dans une perspective compréhensive, ont permis de dévoiler pour qu'on ait un regard plus juste de ce que vivent les personnes.
Ce que tu dis, Isabelle, ça me fait penser à ce que j'ai vécu en tant que maman et que mon fils vit à l'école. Certains professionnels se nomment experts et peuvent adopter une attitude d'autorité, prétendant savoir comment est la personne sur la base de son diagnostic, même si lui-même n'est pas comme ça. Par exemple, lorsque mon fils avait 3 ans, un professionnel m'a indiqué de ne plus parler espagnol à mon fils, alors que c'était notre langue parlée à la maison, c'est-à-dire le langage affectif, sécurisant. Comment je pouvais l'arrêter d'un coup? Je ne l'ai pas fait. Et c'est un manque d'ouverture d'esprit aussi. Je l'ai dit quand on me demande de témoigner comme autiste, mais qu'on veut seulement mon histoire, qu'on veut seulement que je parle de mes difficultés. Et si je veux remettre en question des recommandations ou des perspectives d'experts, on peut me censurer parce que je ne suis qu'un citoyen. Parce que je ne suis pas un professionnel en autisme. Mais quand j'apporte des preuves ou la documentation scientifique pour appuyer mon argumentation.
C'est vraiment déplorable ce que tu dis, Lucilla, puis ça me fait penser à ce qu'on me dit à moi. Quand on me reflète que je n'ai pas la légitimité nécessaire pour mener des projets de recherche qui visent à mieux comprendre le vécu ou encore certaines expériences vécues par des autistes du fait de mon appartenance à la communauté autiste. On note ici, malheureusement, la survalorisation du savoir professionnel ou scientifique par rapport au savoir expérientiel, alors que pour ma part, je considère, puis je suis profondément persuadée, puis il y a d'autres chercheurs qui pensent aussi ça, qu'il y a dans le croisement des savoirs expérientiels, scientifiques, une valeur ajoutée. On a parlé de biais normatifs et des répercussions préjudiciables qu'ils peuvent entraîner. J'imagine très bien les personnes qui nous écoutent et qui se demandent, OK, oui, mais comment je fais pour les reconnaître? Comment je fais pour tomber, en fait, pour éviter de tomber dans le piège? Isabelle, Lucilla, est-ce que vous avez des pistes à proposer?
C'est une question difficile, mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est en fait d'en être consciente de l'existence des biais implicites. Et après, de se questionner, est-ce que j'en ai, moi, des biais implicites? et d'aller se renseigner, de lire sur les sujets, d'écouter des balados comme celui-ci aujourd'hui et de se demander très humblement, ben, sur quelles expériences humaines et sociales j'en connais moins puis je suis appelée à intervenir ou apporter certains soutiens. Donc, écouter, lire des témoignages peut être aussi une source très riche de savoirs expérientiels qui peuvent nous sensibiliser sur des situations puis sur des aspects qu'on peut vivre personnellement aussi ou pas. Tenir compte des savoirs situés, bien, c'est aussi donner de la valeur à ce que la personne exprime. Je pense que c'est vraiment important. Donc, ce que la personne exprime comme première concernée et experte de son vécu. Par exemple, les personnes qui vivent une situation de handicap, de par cette expérience, seront bien souvent plus sensibles ou plus à même de rendre compte des stéréotypes ou des biais capacitistes qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Donc, c'est à nous de tenter de comprendre et d'écouter. Donc, il importe aussi, je pense, en dernier lieu, dans la relation avec autrui, ben, de valider avec la personne notre compréhension de sa situation et de son besoin. Donc, peu importe la situation, s'il y a, par exemple, deux personnes dans la relation, ben, c'est déjà deux possibilités de comprendre la situation de façon différente. S'il y a trois personnes, ben, là, on augmente à trois possibilités, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est d'essayer d'identifier du moins nos possibles biais implicites, d'écouter la personne, de reconnaître la légitimité de son point de vue sur sa propre expérience et de valider avec elle notre interprétation de la situation.
Ah, tout à fait. C'est très juste ce que tu dis, Isabelle, puis je renforcerai le message en soulignant l'importance de considérer comme un fait que la personne qui vit une situation, donc la situation en question, quelle qu'elle soit, en a développé une interprétation là, qui est valable, comme tu l'évoquais, ce qui nous ramène, encore une fois, au concept de justice épistémique.
Et de mon côté, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire et j'ajouterai seulement qu'il faut contribuer aussi à briser les stigmatisations en s'appuyant sur la reconnaissance que chaque être humain a de la valeur. Et en s'appuyant aussi sur le respect de la diversité humaine, et la diversité capacitaire, corporelle, ethnique, culturelle, etc. Et en adoptant ces principes dans nos relations personnelles, dans nos échanges, dans nos actions.
Isabelle, Lucilla, merci pour la pertinence et la richesse de votre contribution. Merci pour votre authenticité. J'aimerais conclure en vous demandant quel est le message clé avec lequel vous repartez de cette rencontre.
Et moi, ce que je retiens, c'est l'importance de reconnaître que chaque être humain est unique et qu'il n'y a pas une meilleure façon ni de vivre ni d'être.
Pour ma part, ce que je retiens, bien, c'est que le savoir, hein, peu importe la forme sous laquelle il se présente, que ce soit un savoir expérientiel, professionnel ou scientifique, bien, il est toujours situé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas valide, mais qu'il est nécessairement partiel et partial. Merci Marjorie de l'invitation.
Encore une fois, merci à toutes les deux. Merci également aux auditrices et aux auditeurs que nous invitons à nous retrouver dans le prochain épisode d'Être humain, rencontre et accompagnement, un balado qui a été créé par Marjorie Desormeaux-Moreau et Adèle Morvanou. Il a été diffusé en 2022 grâce à la collaboration de l'Université de Sherbrooke via son service de soutien à la formation et à la fabrique REL. Ce balado est disponible sous licence Creative Commons 4.0 CC BY NCSA. Vous êtes autorisé à utiliser, partager et adapter cette ressource selon les conditions suivantes. Effectuer l'attribution, pas d'utilisation commerciale et partager dans les mêmes conditions d'utilisation. Merci. La musique intégrée à cet épisode s'intitule « A Mercy ». Elle a été produite par Pierce Murphy sous licence CC BY.